France Info.
Salut l'info !
Chers auditeurs, chères auditrices, un grand bonjour à toi. Ingrid au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut l'info.
Un podcast de France Info et du magazine Astrapine.
Pour évoquer l'actualité, nous avons une invitée. Elle habite à la montagne, à Régnier-Ezry, c'est en Haute-Savoie.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 7 ans et demi et c'est moi qui vais commenter l'émission aujourd'hui. Salut l'info.
Dans ce numéro, on t'emmène à Gaza, ce territoire palestinien détruit par la guerre, pour te raconter comment certains enfants ont pu reprendre le chemin de l'école. On te parle d'une nouvelle importante pour toutes les personnes qui ont besoin d'un fauteuil roulant et on évoque aussi le succès incroyable du film d'animation Zootopie 2.
Allez, c'est parti !
Mais d'abord, cap sur l'île de Sumatra en Indonésie. Deux scientifiques, un Britannique et un Indonésien, après plusieurs heures de marche dans la jungle tropicale, y ont fait une découverte exceptionnelle. Ils ont réussi à voir l'une des fleurs les plus rares au monde, la Rafflesia acelti. Cette plante pousse pendant 3 mois, mais sa fleur géante, rouge à motif blanc ou jaune, ne s'épanouit que 7 jours. C'est à ce moment précis que les scientifiques ont pu l'admirer. L'un d'eux s'est même mis à pleurer de bonheur. Il faut dire qu'il cherchait à en voir une depuis 13 ans.
C'est vraiment un coup de chance. C'est incroyable qu'il y ait une fleur comme ça, alors qu'il voulait la voir pendant des années. C'est long et fatigant. Mais après, si on la trouve, on se dit que tous ces efforts, ils méritent cette fleur.
La Rafflesia acelti est de plus en plus difficile à trouver. Dans la région, la jungle est souvent détruite pour mettre à la place des plantations de café et de palmiers.
Il faudrait moins polluer l'environnement déjà et il faut les laisser vivre, les fleurs.
C'est vrai, mais attention, il y a une autre raison pour laquelle la fleur n'est pas facile à voir. Elle pousse sur des territoires où vivent beaucoup de tigres. Et d'ailleurs, nos heureux scientifiques ont dû rentrer chez eux rapidement avant la tombée de la nuit pour ne pas les rencontrer.
C'est quoi les news ?
Depuis le 1er décembre, les personnes qui utilisent un fauteuil roulant en France n'ont plus rien à payer pour s'équiper. En effet, la Sécurité sociale va désormais rembourser entièrement l'achat ou la location de tous les fauteuils dont les personnes handicapées ont besoin. La Sécurité sociale, tu sais ce que c'est ? En France, lorsqu'on a un souci de santé, un petit ou un gros, on ne paye pas le médecin, les médicaments, les soins. Ou plutôt, on paye, mais une grande partie est remboursée par la Sécu, qui est comme une grande caisse commune où tout le monde, les travailleurs, les entreprises, doit mettre régulièrement une petite partie de ce qu'ils gagnent. Jusqu'à présent, les fauteuils roulants n'étaient pas tous entièrement remboursés par la Sécurité sociale. Or, environ 150 000 enfants et adultes s'en procurent chaque année. Et un fauteuil, ça peut coûter très cher, surtout les modèles électriques. Alors certaines familles avaient du mal à financer les équipements nécessaires. À partir de maintenant, ils seront tous payés directement par la Sécurité sociale. Les fauteuils manuels ou électriques, les modèles de sport, les poussettes adaptées ou encore les scooters spéciaux pour les personnes qui ont un handicap. Après 20 ans de combat, mené notamment par l'Association des paralysés de France, c'est une très belle avancée et un grand soulagement.
Ça aussi, c'est très bien de faire aussi beaucoup d'efforts pour les personnes qui ne peuvent pas faire comme nous, qui ont besoin d'un fauteuil roulant.
De quoi on parle maintenant ?
Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès.
Non, la carotte !
Vous voulez arrêter les méchants ?
Aïe ! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles d'un lapin !
Soyez sur la même longueur d'onde.
10 ans après Zootopie 1, le célèbre dessin animé des studios Disney est de retour, avec toujours la lapine Judy Hopps et le renard Nick Wilde.
J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on fait une bonne équipe ?
Bien sûr. Ils s'entendent pas trop, je crois. Ils essayent de faire partie de la police. Et à la fin, ils finissent par devenir un peu amis.
Oui, tu as vu le 1, toi, Anna, je crois.
Il y a beaucoup d'émotions. Ils expriment un peu leurs émotions. Il y a pas mal de colère. Il y a de la joie aussi. Et de la surprise.
Eh bien, tu devrais aimer Zootopie 2. Sorti le 26 novembre partout dans le monde, c'est un énorme succès. Il a réalisé l'un des meilleurs démarrages de toute l'histoire du cinéma d'animation. Il a déjà attiré 1 million de spectateurs en France et explosé les records aux États-Unis comme en Chine.
Ça aussi, c'est incroyable. C'est faire des jours et des jours de préparation pour enfin le sortir et que tout le monde aime. C'est comme la fleur, ils avaient beaucoup marché et là, ils voient la fleur.
Belle comparaison, Anna. Dans cette suite, la mission de Judy et Nick, nos deux héros, s'annonce encore plus compliquée. Un mystérieux serpent venimeux débarque dans leur cité animale. C'est le premier reptile à revenir à Zootopie depuis un siècle. Alors pourquoi les serpents avaient-ils disparu ? Judy et Nick vont enquêter. Au-delà de l'action et de l'humour, Zootopie 2 rappelle qu'on peut apprendre à dépasser ses peurs et vivre ensemble. C'est d'ailleurs la grande leçon du film. Si on essaie de se comprendre, le monde ira mieux et sera plus fort. Beau programme, non ?
Zootopie abrite une population de reptiles très discrets. Laissez-moi parler aux locaux. Salut mon pote.
Salut mon pote.
Salut pote.
Eh, salut mon pote. Mon pote.
Eh mon pote. Eh mon pote.
Mon pote. Mon pote.
Eh mon pote. T'as vu un serpent ?
Non.
Attendez !
On est canons !
C'est l'info, qu'il vous faut.
Et maintenant, nous partons à Gaza. Tu sais, ce territoire palestinien qui a été bombardé par Israël pendant 2 ans, après que le Hamas, le mouvement qui dirige Gaza, a attaqué des villages en Israël le 7 octobre 2023. En octobre dernier, un cessez-le-feu a été signé. La guerre est normalement arrêtée. On t'avait promis d'en reparler. La vie à Gaza reste très difficile, mais certains enfants ont repris le chemin de l'école. Salut l'info t'emmène sur place pour te raconter.
Le dossier de la semaine.
Oui, Ingrid, cette école s'appelle Al-Kamaliya. 750 élèves, de la primaire au lycée, y sont divisés en 3 groupes qui viennent chacun différents jours de la semaine. Le but, accepter un maximum d'élèves après les interruptions dues à la guerre. Comme l'explique Nisrine Al-Drimli, directrice adjointe de l'école.
Il y a énormément de demandes et pas assez de places disponibles. Environ 90% des écoles ont été bombardées.
Gaza, c'est une bande de terre qui ne fait que 40 km de long, mais qui est très peuplée. Elle compte un peu plus de 2 millions d'habitants et presque la moitié sont des enfants. Parmi les élèves d'Al-Kabaliya, il y a Khalid, Salwa et Rahaf. Ils ont tous les trois 9 ans. On les écoute nous parler de leur nouvelle école.
Je suis ici pour étudier parce que j'ai manqué un an d'école l'année dernière. J'aime cette école, même si elle est différente de mon ancienne école. Là-bas, on avait déjoué, c'était en bon état et ils nous faisaient des vaccins dans les temps. J'ai envie de tout étudier. L'arabe, l'anglais, les maths et tout ce que l'école peut nous apprendre. Je suis heureux d'étudier ici. Mon ancienne école me manque parce que ici nous n'avons pas de chaises, de bureaux ni de matériel d'école.
Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à Gaza, 4 bâtiments sur 5 ont été détruits pendant la guerre. Pour que les enfants puissent quand même étudier, les professeurs d'Al-Kamaliya ont cherché un bâtiment encore debout. Assad Ahmed Al-Sawafiri, le directeur, raconte.
Nous avons beaucoup cherché, mais la plupart des endroits étaient détruits. Finalement, nous avons trouvé cet endroit. Nous l'avons nettoyé et restauré.
Et oui, le projet a finalement trouvé place dans une ancienne école, construite au XIVe siècle. 50 professeurs y travaillent, et la plupart sont bénévoles. Ça veut dire qu'ils enseignent sans être payés, pour que les enfants reprennent un peu une vie normale et puissent préparer leur avenir.
Mon message est que ces enfants sont innocents de ce qui s'est passé et de ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont le droit de vivre en sécurité, à l'abri de la guerre et de recevoir une éducation et des soins de santé. Ce sont juste des enfants.
C'est Ala Abou Sido, enseignant en 2e grade, l'équivalent du CE1, que tu viens d'entendre. Et Assad, le directeur de l'école qu'on a entendu tout à l'heure, insiste lui aussi sur l'importance de l'éducation pour tous les enfants.
Nous demandons un droit international et humanitaire. Le droit à l'éducation pour les enfants de Gaza. Malgré toute la douleur que nous avons endurée, nous restons optimistes quant à l'avenir et pleins d'espoir.
Les enfants aussi veulent rester optimistes. En tout cas, c'est le cas de Salwa, qui rêve déjà au futur métier qu'elle pourrait avoir si elle parvient à poursuivre ses études.
Je veux devenir médecin. Je veux engager des ouvriers pour construire un hôpital et je serai le médecin-chef et le propriétaire de cet hôpital.
Merci Marion. Nous, on souhaite à Salwa de réaliser son rêve, à tous les enfants du monde d'aller à l'école, même si des fois c'est fatigant, et on remercie pour le reportage Feria Abdou à Gaza, ainsi que Thibault Lefebvre, correspondant de France Info à Jérusalem.
Non, mais vraiment, j'ose pas le dire.
J'ai pas envie d'en parler. Mais si, vas-y, on se dit tout.
Et cette fois-ci, c'est Samuel qui nous a laissé un message sur notre répondeur.
Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 8 ans et j'habite à Toulon. La nuit, au moment d'aller me coucher, j'ai toujours du mal à m'endormir. Avez-vous un conseil pour m'aider à trouver le sommeil ? Merci !
Merci Samuel pour cette question qui concerne sans doute de nombreux auditeurs. Je peux déjà te rappeler ces deux petits conseils que tu connais peut-être déjà. Pour bien t'endormir, c'est important de bouger dans la journée, d'avoir une activité physique dehors quand il fait jour. Il faut aussi éviter de regarder les écrans le soir. Et oui, car la télé, le portable ou les tablettes diffusent une lumière bleue qui fait croire à ton cerveau que c'est le jour et donc pas l'heure de dormir. Mais parfois, on n'arrive pas à dormir parce qu'on est un peu stressé, on a peur de ce qui va se passer le lendemain. Si c'est le cas, est-ce que tu passes chaque jour un peu de temps avec ton papa ou ta maman avant de te coucher ? Raconter ta journée et peut-être ce qui t'inquiète peuvent vraiment t'aider. Ce petit moment anti-tracas peut aussi se faire tôt dans la soirée. Comme ça, ton cerveau a bien le temps de s'apaiser avant de se coucher. Enfin, juste avant de dormir, dans ton lit, détends-toi en lisant ce qui te fait plaisir ou visualise une scène qui te rend heureux. Imagine tous les détails de cette scène. Les sons, la lumière, les odeurs et même les sensations sur ta peau. Tu nous diras si ça marche. Et si comme Samuel, il y a quelque chose dont tu veux nous parler, quelque chose qui te tracasse, te révolte, t'énerve ou t'inquiète, tu peux te confier au répondeur de Salut l'Info au 01 47 79 40 00.
Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le...
Et maintenant, c'est l'heure de faire marcher vos zygomatiques. Allez, c'est parti. Première blague.
Bonjour, salut l'info. Je m'appelle Valentine, j'ai 10 ans et demi et j'habite à Paris, en Gironde. J'ai une blague pour vous. Quelles sont les trois lettres de l'alphabet qui sentent mauvais ?
Ah là, désolé, mais je ne sens pas la réponse.
Le G, le P et le T. J'ai pété.
Merci Valentine pour cette blague bien sentie. Allez, on enchaîne.
Bonjour, salut l'info, je m'appelle Inès, j'ai 7 ans et demi et j'habite à Paris. J'ai une blague pour vous. Quel est le père qui est toujours d'accord ?
C'est d'actualité ?
Vous ne savez pas ?
Le Père Noël ?
Le perroquet.
Bien vu Inès, mais ça c'est pas une blague pépère.
Au revoir, salut l'info, j'adore votre podcast.
Allez, suivante.
Bonjour, je m'appelle Mewen, j'ai 10 ans, j'habite à La Gouanière et j'ai une blague. Quelles sont les trois villes qui font 21 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Je ne sais pas. Elles sont peut-être dans le département de la Somme.
3 fois et 7.
21.
Merci, j'adore votre podcast.
Merci Mewen. Alors toi, tu dois être bon en maths. Vivement les prochaines blagues et devinettes. Tu peux les partager à tout moment sur le répondeur de Salut l'Info. Notre invitée Anna nous rappelle qu'il faut nous appeler
au 01 47 79 40 00.
Hey, attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini.
Le club Salut l'info.
C'est justement le moment de tendre à nouveau le micro à notre auditrice de la semaine, Anna. Alors toi, Anna, tu habites à Régnier-Ezry. Comment c'est là-bas ?
Bah, c'est bien. Des fois, quand il fait très froid, il peut neiger un peu. Et c'est bien, c'est un peu à la campagne. Il y a beaucoup de vaches et c'est très beau.
Il y a des montagnes ?
Oui, elles sont grandes et belles. Je fais pas mal de randonnées des fois.
Ton sport préféré, Anna ?
L'équitation. L'équitation, j'ai pas encore fait du saut d'obstacle, mais je pense que j'aimerais bien. À Mercy-les-Bains, il y a un centre équestre, j'avais une ponette, elle s'appelait Satorine, et elle était bien.
Ton plat préféré, Anna ?
Le gâteau Fanny de ma grand-mère. C'est un gâteau, en fait, tu prends des meringues, tu les casses, et tu fais fondre du chocolat. Tu mets une couche de chocolat, une couche de meringue, une couche de chocolat, une couche de meringue, une couche de chocolat. Et j'aime bien. Et quand tu coupes aussi, ça, c'est un peu moelleux avec le chocolat et ça craque avec les meringues.
Ton film préféré, Anna ?
J'ai beaucoup aimé 13 à douzaine.
12, 11.
C'est un couple. Ils ont eu 12 enfants et ils déménagent. Et c'est un peu dur du coup parce que... Ils ont un fils aussi, il a un crapaud et du coup c'est un peu dur avec 12 enfants.
Bah j'imagine, le crapaud il va partout.
Il est plutôt sympa.
Tu peux pas partir.
Je vous promets qu'on formera une famille plus heureuse et plus forte que jamais.
Aucune idée de ce que ça signifie.
Ta star préférée ?
Léon Marchand. J'aime bien aussi la natation.
Et tu l'as découvert pendant les JO 2024 à Paris ?
Oui.
C'est une course pour l'éternité. Léon Marchand qui tout de suite prend les devants et sort en tête sur le papillon. Lui, le champion olympique en titre du 200 pas.
Déjà, quand il a eu une médaille d'or, j'ai commencé à bien l'aimer. Mais quand il en a eu 5, là, j'ai beaucoup aimé. Et il est très fort.
Oubliez tout ce que vous avez vu. Le plus grand champion français sur une Olympiade est toulousain.
Qu'est-ce que tu trouves de bizarre chez les adultes ?
Ils sont toujours sur leur téléphone.
Alors tu réagis comment ?
Avec ma mère, c'est un peu dur de lui enlever. Et bah, j'essaye de lui cacher son téléphone.
Est-ce que tu te dis que plus tard, tu utiliseras moins de ton téléphone, toi ?
Je pense oui. Parce que pour être championne du monde d'équitation, je sais pas trop si on a besoin d'un téléphone.
On va terminer avec ta chanson préférée.
Oblivion de Grimms.
Alors moi, j'ai fait une découverte. Je ne la connaissais pas, cette artiste. J'ai lu qu'elle était canadienne. Qu'est-ce qui te plaît dans sa musique ?
Ça donne envie de bouger. Moi, quand j'étais petite, je disais que comme elle avait un peu ma voix, j'arrêtais pas de dire que c'était moi qui l'avais chantée.
Un grand merci, Anna, de nous avoir si bien accompagnés.
Bah, c'était super de parler dans Salut l'Info. J'avais jamais fait ça avant, j'avais jamais parlé dans une émission et c'était génial.
Et nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une toute nouvelle émission. L'équipe d'Astrapi et de France Info te salue, garde la pêche et le sourire. Et on se quitte donc avec le titre électropop Oblivion de la chanteuse canadienne Grimms. Bye bye.